Bonsoir. Début depuis mardi dernier des opérations des traques contre le combattant rwandais des FDLR dans les moyens plateaux de Mulenge, en territoire d'Uvira au sud Kivu. Dans son rapport mondial 2014 publié mercredi dernier sur les droits humains, l'ONG Amnesty International relève pour la RDC une augmentation des faits négatifs, notamment des conflits armés avec plus encore des victimes, des viols, l'impunité ainsi que la privation des libertés d'expression. Tels sont les thèmes de ce soir dans Tribune de la Presse. Autour de cette table, nous avons Laurel Kankole, il est journaliste au journal Forum des Arts, un quotidien qui paraît à Kinshasa. Bonsoir Laurel Kankole.
Bonsoir Guy.
Joël Kadedanga, éditeur du journal Impact News, hebdomadaire qui paraît à Kinshasa. Bonsoir Joël Kadedanga.
Bonsoir confrère.
Et Raphaël Kiongi Matondo, éditeur directeur général du journal Jonction, un journal qui paraît à Goma au Nord Kivu. Bonsoir Raphaël Kiongi Matondo.
Bonsoir.
Bienvenue à tous dans cette émission. Début des opérations contre les FDLR, dans son dernier rapport, Amnesty International relève une augmentation des faits négatifs pour la RDC. Voyons comment la presse a traité cette actualité à travers cette revue de presse que nous propose Alain Hirung.
Bonsoir. Les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, affrontent depuis mardi 24 février 2015 les combattants des forces démocratiques de libération du Rwanda FDLR à Uvira dans la province du Sud Kivu. La tempête des tropiques informe que les FARDC ont officiellement lancé ce mardi 24 février 2015 et sans l'appui de la MONUSCO une offensive militaire contre les rebelles Hutus rwandais dans la province du Sud Kivu. Des témoins indiquent que des tirs à l'arme lourde et à la mitraillette ont été entendus mardi 24 février, tôt le matin dans les villages de Rouvouyé et Moulindi, surplombant les moyens plateaux de l'Emera à Uvira, rapporte le journal. Le palmarès rapporte que le chef de la diplomatie belge, Didier Reynders, qui était en visite à Goma, a appelé à la poursuite des opérations contre les groupes armés avec l'appui de la mission onusienne. Grâce à la brigade d'intervention venue en appui de la MONUSCO et aux efforts des FARDC, il a été possible d'éliminer le M23 et de travailler autour de Beni contre les éléments ADF. L'Avenir se réjouit de noter que les FARDC ont récupéré le camp de Revo, longtemps occupé par les forces négatives, ce sans l'appui logistique de la MONUSCO. C'est un exploit pour les FARDC, requinqué, jubile le journal avant d'ajouter que seuls au front, les FARDC vont au-delà de l'inattendu. Les assaillants sont en débandade dans la brousse. Le Phare souligne quant à lui que cette opération s'annonce compliqué car elle est lancée sans le soutien de la MONUSCO, alors qu'une certaine grogne gagnerait déjà l'armée dans la région en raison du manque des moyens. Le potentiel renchérit qu'étant donné la complicité de cette opération et les nombreux défis auxquels les FARDC doivent faire face, Bruxelles souhaiterait que Kinshasa accepte de nouveau le soutien de la mission onusienne. Sous un autre chapitre, Forum des As affiche en vedette, au lendemain du séjour des ministres belges à Kinshasa, révélation sur le tête-à-tête Kabila Reynders de Croix. Que se sont dit Joseph Kabila, Didier Reynders et Alexander De Croo mercredi dernier à la présidence de la République, ainsi s'interroge le confrère qui note que ce tête-à-tête que la presse belge n'a pas été autorisée à couvrir a laissé planer le mystère. Terminons par cette note triste pour rendre hommage à deux journalistes qui nous ont quittés. Il s'agit de Claude Kamangamutonde et Paul Dikassa Dimpe, que leurs âmes reposent en paix.
Merci Alain Hirung, Laurel Kankole, journaliste au journal Forum des As, un quotidien qui paraît ici à Kinshasa. L'actualité, c'est aussi cette nouvelle triste, vous l'avez suivi dans la revue de presse proposée par Alain Hirung. C'est le décès des deux confrères journalistes Claude Kamangamutonde et Paul Dikassa Dimpe. Tous deux anciens des Radio Okapi, ils sont tous morts la semaine dernière. Et le dernier média où a évolué Claude Kamangamutonde, c'est la télévision Biwan. Votre réaction?
Non, mais je suis tout à fait perturbé, j'étais un peu déconnecté, c'est maintenant que je l'apprends à Guy. Franchement, là, ça m'a bouleversé, j'ai pas appris que Claude était décédé, puis là, et franchement, paix à son âme, et je suis tout à fait ému, quoi.
Joël Kadedanga, éditeur du journal Impact News, et notre demandeur qui paraît à Kinshasa, un mot par rapport à la mort de ces deux confrères journalistes, Claude Kamangamutonde et Paul Dikassa Dimpe.
En tout cas, très très consterné. Vous savez, Claude, nous avons eu à développer dans les dernières minutes, malheureusement, une amitié cofraternelle, malheureusement qui ne nous a pas permis d'évoluer, d'aller plus loin, qu'il repose en paix tous les deux. C'est vraiment la presse qui vient encore de perdre des grandes voix et des grandes plumes. Que Dieu ait leurs âmes.
Raphaël Kiyongi Matondo, éditeur, directeur général du journal Jonction, un journal qui paraît à Goma au Nord Kivu, des confrères journalistes qui nous quittent, qui nous ont quittés la semaine dernière. C'était dans un espace de quelques jours. Votre réaction?
Oui, nous avons suivi avec beaucoup de tristesse ces nouvelles qui nous ont bouleversés, surtout que nous-mêmes, nous de Goma, en fait, nous de l'Est ici, nous plairons encore Placide Sengui Sengui, qui était sous-directeur à la RTMC et qu'on a éliminé, je pense, hier. Toutes ces morts-là nous dérangent parce que c'était des talents, des journalistes très talentueux qui ont œuvré pour faire éclore le métier et le placer à un niveau très remarquable.
Laurel Kankole, l'autre actualité cette semaine, c'est les 13 ans d'existence de Radio Okapi.
Oui, excusez-moi. Dans un lyrisme pas de mauvais aloi, il y a certains qui appellent Radio Okapi la RFI congolaise. C'est grâce à Radio Okapi aujourd'hui que même nous, la presse écrite et la plupart des médias sont au courant de la situation, la vraie situation dans le pays profond, parce que tous les organes ici n'en ont pas le moyen. Et je crois que Radio Okapi a développé une certaine forme de professionnalisme avec des permanents, des correspondants presque dans tous les coins du monde, et c'est ça un avantage comparatif que les autres rédactions n'ont pas. Je ne peux souhaiter que un joyeux anniversaire à notre consoeur Radio Okapi.
Joël Kazedanga, une appréciation par rapport au travail de Radio Okapi?
Une appréciation très très positive dans la mesure où, comme le confrère venait là de le dire, c'est Radio Okapi qui a contribué beaucoup favorablement à l'instauration, la restauration de la démocratie, de la paix dans notre pays. Partout, la RTNC n'arrive pas, en tout cas c'est la Radio Okapi qui a développé un sens beaucoup plus élevé comme une agence en plus, parce qu'elle devient un fournisseur des informations à beaucoup d'organes de presse. En outre, mais cette contribution-là n'a pas eu son répondant du côté du gouvernement avec la mort de plusieurs de nos confrères. Je pense à Manamu Jumbo, je pense à Maïché, je pense à ceux encore qui sont morts dans des conditions normales comme Kamujova, comme Ngongo, mais à qui il n'y a pas eu une manière beaucoup plus significative d'honorer leur mémoire. Et les procès de tous ces confrères se sont déroulés dans des conditions beaucoup plus douteuses. Je souhaiterais vraiment que le gouvernement se penche un peu sur la protection de ces colombes de la paix, tout en élucidant les conditions dans lesquelles nos confrères ont été tués.
Raphaël Kiyongi Matondo, un mot par rapport aux 13 ans d'existence de la Radio Okapi?
Pour nous, c'est clair. Hein. Si Radio Okapi n'existait pas, il fallait absolument la créer. Sans la Radio Okapi, il est pratiquement, quasiment impossible de donner des informations crédibles à l'Est. Vous savez, quand il n'y a pas un peuple sous-informé comme celui de l'Est, si vraiment il n'y avait pas Radio Okapi, on ne saurait pas vraiment essayer de pacifier l'Est, ou essayer de donner des informations qui essaient de temps en temps de calmer les esprits surchauffés de nos frères et sœurs ici à l'Est. Vraiment, c'est un travail des titans qu'a réalisé Okapi pendant ces 13 ans, mais aussi beaucoup de sacrifices que nos confrères, je le vois travailler chaque jour ici à Goma, et souvent quand je me rends dans d'autres provinces comme le Sud Kivu, de temps en temps à Bunia et à Kisangani. Et il faut voir dans quelles conditions ils travaillent, comment ils se démènent. Vraiment, c'est un sacerdoce pour ces jeunes frères, confrères de Radio Okapi. Félicitations, mais il reste encore à améliorer certaines choses telles que on ne sent pas une critique objective de la part de Radio Okapi en ce qui concerne les organisations internationales et les organisations non gouvernementales internationales. Pourtant, il y a beaucoup à dire, c'est les pratiques qu'on constate dans ces organisations par rapport à la gestion de certains projets très sensibles. Voilà la seule remarque que je peux formuler à ce jour.
Merci. Le premier thème de ce soir débute depuis mardi dernier des opérations des traques des combattants rwandais des FDLR dans les moyens plateaux des Moulengue en territoire d'Uvira au sud Kivu. Les FARDC procèdent depuis mardi dernier à l'opération des ratissages à Kacheke, village situé à plus de 30 km à l'ouest de l'Emera Centre dans la chefferie des Bafouliro. Ceci après avoir pris le contrôle de l'ancien campement des FDLR rwandais des Revo, toujours dans les Moulengue. Les bilans des premiers accrochages n'est pas encore connu, mais des sources militaires du commandement des opérations Sukola 2 au sud Kivu précisent que dans leur progression, les troupes loyalistes sensibilisent en même temps les civils et les dépendants des FDLR de pouvoir se désolidariser des combattants. Fiston Goma pour les détails.
Le site de campement des combattants rwandais des FDLR de Revo est situé à près de 30 km à vol d'oiseau de l'Emera Centre. Tôt ce matin, ce site a été attaqué par le FARDC dans une opération commandée depuis le maire à centre par le général Espérant Massoudi. Le bilan n'est pas encore connu, mais des sources militaires de la 33e région militaire affirment que les assaillants sont en débandade. Depuis le village environnant de Rouvouye et Moulindi, des tirs à l'arme lourde et à la mitraillette sont entendus, ainsi qu'à le maire à centre dans la chefferie de Bafouliro. Le président de la société civile sur place affirme que le déploiement des forces loyalistes avait commencé depuis une semaine. Hier et ce mardi matin, les troupes ont été renforcées et la population a aperçu ces troupes de FARDC se déployer sur les montagnes. Innocent Daeba exprime cependant l'inquiétude sur la protection des civils dans la zone des combats à Moulengue 1 et 2 et à Mougoulé. Une délégation composée des pasteurs et des enseignants a déposé cette plainte hier à la société civile de l'Emera. Pour rappel, ces opérations de traque des FDLR attendues depuis plusieurs semaines n'avaient pas encore commencé au site Kivu. Ceci avait provoqué quelques critiques aussi bien des observateurs locaux, nationaux qu'internationaux. Douvira Fiston Goma Mayabala, Radio Kapi.
Merci Fiston Goma. Laurel Kankole, je rappelle que vous êtes journaliste au journal Le Forum des As, c'est un quotidien qui paraît ici à Kinshasa. Les opérations militaires contre les FDLR rwandais annoncées depuis quelques semaines ont effectivement été lancées au sud Kivu à Ouvira. Votre réaction?
Oui, elle ne va pas tarder, je crois. Pour ceux qui connaissent bien la région, la problématique de l'attaque de FDLR dans l'est du pays est une problématique à la fois complexe au regard des défis. Et je crois que quiconque connaît la région sait de quoi je parle. Et aujourd'hui, le gouvernement a levé l'option de traquer les FDLR sans l'appui de la MONUSCO. Mais peut-être le gouvernement s'est rendu compte ou a confiance totalement en ses forces armées loyales, ce qui est normal. Mais en même temps, je me dis, je ne peux que souhaiter que cette action aille jusqu'à à son terme, qu'on obtienne les résultats attendus. Mais seulement, je me dis, est-ce que c'est vraiment évident ou c'était le moment de rompre le mariage avec la MONUSCO? Je me dis, peut-être c'était une rupture précipitée. Et en même temps, je me demande si, au regard de défis qui attend, il n'y a pas lieu qu'on renégocie, qu'on reprenne langue, que le gouvernement reprenne langue avec la MONUSCO pour que cette action ne se limite pas à mi-chemin. Mais comme elle a commencé, je ne peux que souhaiter un bon aboutissement à cette opération de traque des FDLR.
Joël Kadé Danga, éditeur du journal Impact News, hebdomadaire qui paraît à Kinshasa, vous avez suivi Laurel Kankole qui estime que la problématique FDLR c'est une problématique complexe au regard des défis. Votre analyse?
Oui, au regard des défis, bon, quel défi? Parce qu'il y a lieu de souligner que ces FDLR ont été d'abord bombardés lorsqu'ils se sont installés sur le sol zaïrois à l'époque. Ils ont été bombardés. Kengo le reconnaît, l'ancien premier ministre du Zaïre. Et ils ont été tués. Ils ont été pourchassés et tués par l'agression de la RDC avec l'entrée de l'AFDL. En 1998, ils ont encore été poursuivis et tués. Ils ont été poursuivis et tués dans les opérations qui ont conduit Kamere à être déchu du pêchoir de l'Assemblée nationale. Et à l'heure actuelle, je ne m'imagine pas quel est ce nombre que pourrait encore demander à notre armée constituée de plus de 150 000.
On parle d'environ 1500 combattants.
Alors, les 1500, là, avec les nouvelles technologies, je crois qu'il y avait lieu de les situer, de les configurer, parce que, en les configurant, et qu'on puisse mener les moyens des négociations pour le retour au Rwanda. Et j'ai toujours été personnellement contre la solution militaire en ce qui concerne la traque des FDLR, parce que de la même manière qu'il a été imposé à la RDC, n'est-ce pas, de négocier avec ces rebelles, même si ces rebelles-là, il y avait certaines incertitudes sur la nationalité de quelques-uns de ces animateurs, on a négocié avec le MLC, le SCD Goma, on a fini par négocier avec le CNDP, on a fini par négocier avec le M23, même déchu, il y a eu les déclarations de Nairobi. Je crois qu'il y a lieu que la communauté internationale qui demande qu'il y ait la paix dans la région de Grand Lac puisse également demander au Rwanda d'organiser les dialogues interrwandais, à l'Ouganda d'organiser les dialogues, au lieu que l'on mène les actions dont les conséquences collatérales n'auront pour effet néfaste que sur la population congolaise. Parce que les FDLR, jusqu'à preuve du contraire, n'ont jamais constitué une menace pour le Rwanda. Les FDLR ne sont une menace que pour les Congolaises et Congolais qu'ils violent, qu'ils tuent, qu'ils massacrent à tout moment. Donc c'est à ce niveau-là que moi, j'en appelle encore au sens de la sagesse pour qu'on trouve d'autres moyens, parce que dans cette traque, quand ils vont fuir dans leur fuite, ils vont tuer toujours les Congolais.
Raphaël Kiongi Matondo, je rappelle que vous êtes éditeur directeur général du journal Jonction, un journal qui paraît à Goma. Vous venez de suivre Joël Kadidanga qui lui prône les négociations pour permettre, n'est-ce pas, aux FDLR de retourner chez eux au Rwanda en lieu et place des opérations militaires.
Non, en fait, c'est normal qu'ils parlent dans ce sens-là, parce que nous qui vivons, si je connaissais les réalités dans lesquelles nos populations vivent matin, midi et soir, dans leur propre pays, vous voyez les propres frères congolais qui sont transformés en esclaves dans leur propre pays, qui sont malmenés, maltraités, donc qui vivent dans des exactions commises par des familles FDLR depuis une vingtaine d'années. Ils ne pouvaient pas souhaiter sincèrement les dialogues par rapport à l'usage de la force comme il avait le cas pour le moment. Pour ces gens-là, pour nous qui vivons ici, je crois, l'usage de la force est la seule réponse qu'il faut donner à toutes les exactions commises par ces affreux FDLR. Ils occupent des localités, ils installent des barrières, ils prélèvent des taxes. Ils se comportent comme s'ils étaient chez eux au Rwanda. Ils ne sont pas chez eux. D'ailleurs, mon confrère dit que les combattants FDLR ne constituent pas une menace pour le Rwanda. Mais c'est la réalité. On dit que c'est une force pour chasser le pouvoir de Kagame. Mais c'est faux. Ils n'ont jamais constitué une menace. Il faut traverser ici. Nous sommes à Goma. Il faut aller à Gisenyi, voir comment les Rwandais se comportent là-bas.
Raphaël.
Ils n'ont aucune crainte de ces gens-là. Donc, ce n'est pas une menace FDLR pour les Rwandais.
Raphaël.
Il faut que nos forces armées, qui ont venu de lancer cette opération sur le moyen plateau de l'Emirat, où justement, voilà, pour une première fois, nos soldats lancent l'opération. Et qu'est-ce qui se passe? Même les groupes armés, les petits groupes armés de Bafoulero, sont en débandade.
Oui, Raphaël Kiongi.
C'est un résultat positif. Mais seulement, comme les amis disaient, il y a des craintes. Les craintes, c'est quoi? Par exemple, au niveau du Sud Kivu. Vous savez, dans la région là de Nimembwe, il y a le FDLR qui sont mariés, donc le Hutu rwandais, moi je préfère utiliser le terme Hutu rwandais, se sont mariés avec des Bafoulero. Et donc, les Bafoulero les protègent. Et là, c'est une difficulté pour l'armée, pour nos soldats. Ils ne seront pas facilement chassés, les FDLR, totalement de cette contrée-là,
Raphaël.
Parce qu'il y a la complicité des Bafoulero.
Raphaël.
Et puis, il y a un autre défi. Pardon?
Oui, vous ne pensez pas que les craintes exprimées par Joël Kadidanga se justifient dans ce sens que les rebelles FDLR ont eu pendant longtemps la possibilité, n'est-ce pas, de s'intégrer dans la population civile et que lorsqu'il y a des opérations militaires contre ces rebelles, il risque d'y avoir des victimes collatérales. Vous ne pensez pas que dans ce sens-là, il aurait raison?
Mais non. Écoutez, il faut faire un distinguo. Là, ce sont des opérations, la traite qui vient d'être lancée dans le Sud Kivu. Hein, vous voyez, c'est dans le Sud Kivu qu'on vient de lancer l'opération. Donc c'est, là, il n'y a pas ces dangers-là. Parce que vous pouvez suivre même les informations qui sont données par les organisations non gouvernementales. Non, là-bas, ce risque-là n'est pas aussi grand que chez nous au Nord Kivu. C'est en Nord qui voyait un sérieux problème. Parce que le FDLR, Hutu, sont dans la population. Nous avons des Hutus dans les territoires du Massif, ce que vous connaissez très bien. Il y a des Hutus dans les territoires du Rutshuru. Et tout, c'est dans ces deux territoires qu'il y aura des difficultés pour le pape de Sy, pour l'opération Sokoladi. Il y aura des sérieuses difficultés parce qu'il y a une forte complicité, il y a une symbiose qui s'est créée entre ces rebelles et les autochtones, et donc c'est ici. Et puis il y a une autre difficulté, oui, c'est la forêt chez nous ici. Donc le Rutshuru, les Massissi, le Walikane, c'est la forêt, donc il y a des gros obstacles pour l'armée. Mais
merci.
Là-bas, c'est les plateaux, c'est la plaine, ce sont les prairies.
Merci,
c'est pour ça que vous voyez
Raphaël.
Que l'armée a pu agir, est en train d'agir un peu avec beaucoup de souplesse, mais l'opération...
Merci Raphaël Kiongi, je vous redonne la parole. Merci Laurel Kankolé. Vous avez parlé des problématiques, n'est-ce pas, par rapport au FDLR, les problématiques complexes, n'est-ce pas, au regard des défis. Et parmi ces défis, il y a cette problématique de la protection des populations civiles. Vous venez de suivre Joël Kadedanga qui exprime, n'est-ce pas, la crainte de voir cette population être la première victime de ces opérations militaires. Et notre ami Raphaël Kiongi, qui lui reconnaît qu'il y a une symbiose entre ces FDLR et les populations civiles, comment relever ces défis, protection des civils?
Oui, je crois que ce sont des opérations militaires qui ne se mènent pas de manière aveugle. Et il y a toujours une planification, il y a un planning, de manière à ne pas rater la cible et faire de la population civile une cible expiatoire comme ça devant les cibles à canon, parce que ce sont des militaires, il y a des généraux, il y a des hauts gradés de l'armée qui savent qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas bombarder les populations civiles et faire en sorte que ces pauvres civils sans aucun moyen de défense tombent les premières victimes et que les FDLR suivent à ces opérations. Je crois, c'est vrai, il faut reconnaître qu'il y a toujours, la marge n'est pas totalement écartée, il y a toujours des effets collatéraux qui fassent que, bon, on déplore quelques cas de victimes qui meurent dans des opérations. C'est vrai, mais je crois que l'armée ou les responsables de ces opérations ne manqueront pas ou ils n'ont pas étudié préalablement le planning et la politique de ces opérations par rapport aux défis Guy. J'étais dans ce coin, je crois, une année après l'arrivée de l'AFDL. On a vu ce qui se passe au coin.
En
98. Mais c'est des mariages, comme l'a dit plutôt Raphaël. Il y a des mariages exactement entre les FDLR et les femmes congolaises. Et des mariages desquels sont nés des enfants. C'est des familles entières qui se sont créées. Et aujourd'hui, il y avait la complicité des belles familles qui ne sont plus à mesure de livrer leur beau-père parce qu'ils se disent, si nous partons, ça devient une charge pour nous. Qui va prendre en charge ces enfants?
Alors, compte tenu de cette réalité, Laurel Kankolé, était-il impossible de mettre un accent sur une solution politique?
Mais ils sont ici chez nous depuis quand? Je crois que ce n'est pas nous qui les posons des problèmes, c'est plutôt les FDLR qui se comportent sur notre territoire comme si c'était dans un territoire conquis. C'est cette difficulté de vivre en harmonie avec les autochtones de la terre d'accueil. Je crois que les FDLR de ce côté-là ne méritent aucune excuse absolutoire. S'ils étaient pacifiques, depuis tout ce temps qu'ils sont sur notre territoire, je crois, si je ne me trompe pas, ils sont ici depuis avril 96. Faisons ça les calculs jusqu'à aujourd'hui, la mort d'Abiyarimana. Ça fait combien de temps? C'est eux qui posent des problèmes.
Depuis 94.
Ah oui, excusez-moi, depuis 94. C'est eux qui posent problème, c'est eux qui tuent, c'est eux qui fuient. Nous n'avons jamais posé des actes contraires. Voilà.
Joël Kadedanga, Laurel Kankolé, avait soulevé dans sa première intervention et s'est peut-être posé la question de savoir pourquoi la FRDC a coupé, n'est-ce pas, ses ponts avec la MONUSCO dans la traque contre les FDLR. Il y a même le ministre belge des Affaires étrangères, M. Didier Reynders, qui séjourne ici au Congo, qui avait exprimé le week-end dernier les souhaits de Bruxelles, n'est-ce pas, de voir Kinshasa admettre de nouveau l'appui de la MONUSCO dans les opérations contre les FDLR, après que Kinshasa ait décidé de mener seul ces opérations.
Et Guy, permettez-moi, avant de répondre à votre question, de me poser un peu une autre question. Au bout du compte, si les FARDC ne réussissaient pas à dégager l'FDLR, qu'est-ce qui adviendrait? Et qu'est-ce que la communauté internationale qui a soutenu à l'époque l'AFDL dans l'agression de la RDC, qui a soutenu le RCD, qui a soutenu toutes les autres actions des rebelles d'agression dans l'est de notre pays, et au départ c'était le souci de la balkanisation de notre pays. Alors, au bout de compte, si on arrivait pas à mettre fin, n'est-ce pas, si on n'arrivait pas à chasser FDLR, qu'est-ce qu'il pourrait, est-ce que, n'est-ce pas, il pourrait sortir une solution telle qu'il faudrait qu'il y ait une zone tampon pour les installer, comme toutes les théories qui sont développées sur cette table, même par mon confrère qui est là-bas, ils sont déjà mariés ensemble.
Voilà, ça c'est parmi les questions, n'est-ce pas, oui, que certains observateurs se posent. Hein.
Oui.
Donc, l'objectif ultime de ces opérations, est-ce que c'est de pousser les FDLR à pouvoir entrer chez eux au Rwanda ou de les pousser à s'établir davantage chez les sols congolais?
C'est là où je me dis que les vrais Congolais devraient réfléchir sur l'aboutissement de ces opérations, parce qu'au bout du compte, on risque de vous dire non, comme on n'a pas réussi à les chasser, ils ont nos soeurs, ils ont nos frères ici, alors on peut les installer quelque part, on peut leur trouver un petit coin quelque part pour qu'ils continuent encore à opérer en colonisateur sur notre sol. Revenons à votre question.
La coopération MONUSCO-gouvernement congolais.
Je crois qu'il y a lieu que le gouvernement puisse remettre un peu de l'eau dans son vin, bien que personnellement j'ai eu à soutenir la décision du gouvernement, parce qu'à un moment donné vous ne pouvez pas accepter de suivre des critiques par la voix des ondes alors qu'il y a des canaux diplomatiques par lesquels la MONUSCO pouvait faire parvenir ses inquiétudes en rapport, n'est-ce pas, avec les deux généraux. Je crois qu'il y avait tous ces moyens-là, mais que même le chef de l'État, le gouvernement, le premier ministre, le ministre des Affaires étrangères l'apprennent par la voix des ondes. En tout cas, il y avait lieu, n'est-ce pas, de s'inquiéter par rapport à ça, et l'action du gouvernement, elle est à saluer. Ok, comme l'action a été posée, mais il y a un problème de la mobilisation de nos forces armées de la République démocratique du Congo, compte tenu, n'est-ce pas, des moyens mis à leur disposition, compte tenu des moyens logistiques, les moyens matériels, les moyens financiers. Nous connaissons comment est-ce que les soldes de nos militaires souffrent de temps en temps pour leur arriver, même au-delà de la bancarisation. Nous connaissons combien ils touchent. Je crois, pour permettre que les choses puissent aller, je crois que le gouvernement peut aller dans les conseils donnés par la délégation belge ici localement.
Merci.
Pour renégocier, pour reprendre l'angle, comme le confrère venait en de le dire, avec la MONUSCO, des manières à donner beaucoup plus d'efficacité à ces opérations.
Merci Raphaël Kiongi Matondo, parce que vous avez estimé que l'unique moyen, n'est-ce pas, c'est l'utilisation de la force, compte tenu du fait que les populations civiles ont beaucoup souffert de la présence des FDLR sur le territoire congolais. Et vous êtes vous posé la question de savoir quel est l'objectif ultime de ces opérations. Hein. On l'a relevé ici, il y a des observateurs qui se demande est-ce que c'est pour pousser les FDLR à rentrer au Rwanda ou carrément les aider à s'établir davantage sur le sol congolais.
Je pense que le plus important pour nous à ce stade, c'est que cette traque puisse produire les effets. Et les effets, c'est quoi? C'est parce que ces affreux FDLR ne sont pas encore prêts à regagner le Rwanda natal, même par une de mobilisation volontaire. Vous voyez, donc l'objectif tel que le gouvernement le dit ici, tel que tous les politiciens qui arrivent ici nous répètent matin, midi, soir, c'est de dire que on fait la traque pour les éloigner davantage de la frontière rwandaise, pour les éloigner davantage du Kivu, de manière globale. Parce qu'ils sont tellement rentrés, ça fait 20 ans, 20 ans qu'ils sont dans, ils équipent le montagne ici, ça fait 20 ans qu'ils ont créé des réseaux. Ce sont des gens qui se sont, leurs chefs surtout, pas tous, mais leurs chefs sont devenus des puissants commerçants qui ont des hôtels ici, qui ont des sociétés de transport, qui ont même de milliers de mototaxis qui règnent en maître ici parce qu'ils ont de l'argent, ils dirigent de mines dans le Walikale, dans le Matissi. Donc ils sont devenus tellement puissants qu'ils ont constitué des réseaux avec certains gouvernants, avec certaines autorités nationales, avec des personnalités de notre pays. Donc, au point que la guerre de l'Est, l'insécurité de l'Est, est devenue une affaire de gros sous. Il ne faut pas se cacher. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, même la crainte que nous avons, c'est laquelle? C'est de nous dire, bon, écoutez, ça a commencé au Sud Kivu, l'opération Sokola, l'état-major c'est ici à Goma. Ça va continuer jusqu'ici parce qu'on doit traquer ces FDLR dans le Matissi, dans le Walikale, dans le Rutshuru. Mais ici, on doute effectivement des résultats finaux. Pourquoi on doute? Parce qu'il y a des réseaux. Il y a des réseaux. Donc c'est devenu un fonds de commerce. C'est un trafic utile. Donc c'est un business. Donc même la guerre, là, à un certain niveau, c'est un business. Toutes le tour de Goma, vous verrez, le gouverneur le dénonce ce dernier temps chaque fois qu'il a l'occasion de parler à la presse. Mais faites-le tout. Peu d'officiers sont d'avis qu'il faut terminer cette guerre-là. Parce que c'est ça, c'est l'argent. C'est l'argent sale, là. C'est le commerce qui se fait avec à l'aide de ces gens-là.
Merci.
C'est cela qui fait le prolongement. Et pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure au début, mais écoutez, si aussi si vous, les soldats de l'armée gouvernementale, peuvent mouvoir sans la MONUSCO, mais ce n'est pas possible dans le Nord Kivu. Ce n'est pas possible. Ici, il faut une logistique. Il faut un service. Donc, il faut des renseignants.
Merci, Raphaël.
Ici, il n'y a que la MONUSCO qui a le service de renseignement le plus outillé. C'est cela. C'est là la crainte. Et puis, la forêt. Vous allez déployer les militaires dans le Walikale, dans les forêts de Batisti, sans les hélicoptères de la MONUSCO. C'est impossible.
Merci, Raphaël.
Et même les ravitaillements, ils peuvent aller à pied, mais il faut les ravitailler. Et pour les ravitailler, il faut larguer les
caisses
de munitions et de nourriture. Oui.
Merci, Laurel Kankole. Raphaël a parlé d'une affaire des gros sous quand il parlait des FDLR. Vous allez réagir par rapport à ça. Mais aussi, un autre défi, n'est-ce pas, c'est l'FDLR qui avait, il y a de cela quelques temps, accepté de déposer les armes. Ils avaient souhaité que la communauté internationale puisse faire pression au gouvernement auprès, n'est-ce pas, de Kagame, afin que celui-ci puisse créer un espace et pouvant permettre un dialogue inter-rwandais. Mais apparemment, cette question est restée un sujet tabou. On n'a pas voulu insister sur ça. C'est, n'est-ce pas, un autre défi
à relever. Oui, mais tu as tout compris, parce que sur le plan international, je crois que le problème doit être résolu à deux paliers. Le premier palier est interne et le deuxième est externe, donc international. Interne, comme l'a dit Raphaël, je crois la difficulté est là aussi, c'est comme un verre qui est à l'intérieur d'un fouille. Lorsque Raphaël dit qu'il y a des complicités intérieures entre nos autorités locales et les Interahamwe, donc des FDLR qui vivent sur le sol congolais, vous aurez tout compris, Guy. Celui qui trouve son compte dans une situation voudra que celle-ci perdure le plus longtemps parce que c'est de là qu'il tire ses dividendes. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, dès lors que nos autorités locales, selon ce que Raphaël dit, trouvent leur compte dans cette affaire des FDLR, quelque part, ils sont les parents de ces faces négatives. Donc, c'est eux qui entretiennent. Et en retour, ils gagnent ce qu'ils gagnent. Et là, il y a tous les risques que le plan de notre armée soit déjoué. Donc, il y ait trahison en interne. Pourquoi? Parce qu'on ne voudrait pas que les partenaires quittent tout de suite. Sur le plan international, donc à l'externe, je crois, il faudrait que la communauté internationale joue franc jeu. Pourquoi, je me dis, c'est une question que moi je me pose toujours, mais pourquoi la problématique des FDLR n'a jamais trouvé d'issue? Il est question simplement qu'on demande aujourd'hui à Paul Kagame d'intégrer ses forces, de prendre langue. Je crois que nous avons été avec Vital Kamerhe à l'époque, ministre de l'Information, nous avons été à Kamina, on a assisté à une première vague de départ volontaire des FDLR. Et aujourd'hui, pourquoi cette opération s'était arrêtée en mi-chemin?
Merci, nous passons à notre deuxième thème. Malheureusement, il n'y a plus assez de temps. Dans son rapport au Mondial 2014, publié mercredi dernier sur les droits de l'homme, l'ONG Amnesty International relève pour la RDC une augmentation des faits négatifs. Amnesty International a publié mercredi dernier son rapport mondial sur les droits humains. En ce qui concerne la partie Afrique de l'Est et Grand Lac, notamment la RDC, cette institution internationale relève une augmentation des faits négatifs, comme les conflits armés, avec plus encore des victimes, le viol, l'impunité, ainsi que la privation des libertés d'expression. Suite à cela, l'ONG demande au pouvoir de Kinshasa, notamment, de sécuriser la population civile. Deli Mawazo CCP, chercheur de la RDC Amnesty International, a été joint depuis Nairobi par Lievin Mwinga.
Nous avons trois grandes tendances qui s'appliquent à la RDC. Non seulement que le conflit armé a changé de facette, il y a eu beaucoup d'évolutions négatives. Deuxièmement, on constate qu'il y a un rétrécissement de la liberté d'expression et la liberté de manifestation plus que la liberté d'association. Et la troisième tendance, c'est qu'il y a un problème d'impunité. Les gens ne sont pas tenus responsables des allégations de crimes internationaux qu'ils auront commis contre les civils. En fait, le grand message est lancé au gouvernement de la RDC pour lui demander de de bien vouloir protéger les civils en temps de conflits armés et de deux, pour lui demander de bien vouloir garantir la liberté d'expression, la liberté d'opinion et la liberté d'association. Les rapports parlent des incidents de viols massifs et cela s'est passé très souvent dans les zones couvertes par les conflits armés.
En réaction, le porte-parole du gouvernement s'indigne des allégations contenues dans les rapports d'Amnesty International, et ce, en dépit des efforts consentis par le gouvernement congolais dans la sécurisation de la population civile, dans la protection des droits humains et dans la lutte contre l'impunité, a dit Lambert Mende au téléphone de Michel Kifindangoy.
C'est un rapport, je pense, qui ne reflète pas la réalité, c'est bien dommage. Au moment où des jeunes militaires congolais sont en train de mourir dans des affrontements avec les terroristes des ADF qui tuent nos populations à l'Est, et au moment où notre gouvernement vient de déclencher sur terrain le désarmement forcé des FDLR avec des risques graves pour la vie de nos jeunes soldats, nous nous attendions quand même à une certaine reconnaissance des efforts du gouvernement au lieu de telles invectives. C'est vraiment dommage. Alors, en même temps, on nous reproche de ne pas protéger nos populations, et en même temps, on nous reproche de réprimer des gens qui sont en train de menacer justement la sécurité de ces populations. Il faudrait qu'Amnesty sache ce qu'elle veut. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire à la fois.
Voilà, Joël Kadet Danga, je rappelle que vous êtes éditeur du journal Impact News, hebdomadaire qui paraît ici à Kinshasa. Comment vous analysez ces débats entre Amnesty International et le gouvernement congolais? Amnesty International qui relève dans son dernier rapport pour la RDC une augmentation des faits négatifs, et chose que le gouvernement congolais rejette et estime que Amnesty International devait mentionner dans son rapport les efforts que fournit ce gouvernement, n'est-ce pas, dans la gestion des droits humains ici au Congo.
Oui, merci Guy. Bien avant de répondre à cette question, permettez-moi juste 30 secondes dans mon temps imparti pour juste demander à nos confrères et à beaucoup d'analystes congolais que l'on ne puisse pas donner un prétexte au Rwanda de continuer à avoir des raisons d'attaquer notre territoire. Vous savez, à cause toujours des CFDLR, mais les théories telles que développées par mes confrères, même autour de cette table ou mieux dans les couloirs, ça pose problème. Voilà. Je reviens à la question du rapport de l'Amnesty International. Moi, je me suis toujours étonné. Lorsque Doing Business public, la RDC a amélioré, on doit acclamer. Lorsque le FMI dit que la RDC a fourni des efforts, on doit acclamer. Lorsque on dit le cadre macroéconomique, je me suis toujours inquiété que le gouvernement ne puisse pas également accepter lorsqu'on dit que ça ne va pas. Dans quel pays où vous vous retrouvez avec deux gens qu'on arrête d'abord parce qu'ils ont tenu tel point de vue, ils ont dit telle ou telle autre chose, comme les cas Vano, les cas Muyambo, les cas Kamere, enfin, tous les cas qui sont devant la justice congolaise aujourd'hui, ce sont des cas où d'abord des gens ont été arrêtés, sans savoir la raison pour laquelle ils ont été arrêtés par des services de renseignement, et c'est quand ils sont arrivés, soit au cachot, soit en prison, qu'on vous sort maintenant les griefs qui leur sont reprochés. Aucun respect de la procédure. Bon, vous allez me dire vraiment qu'il y a un effort dans le respect des droits de l'homme. Les gens qui ont exercer ne fût-ce que leur liberté d'expression à travers les médias. Donc vous allez me dire vraiment qu'il y a le respect du droit de l'homme. Guy Maté, laissez-moi vous dire, tous ces cas-là, non pour plaignant que le ministère public. Donc il n'y a pas un seul plaignant en face de tous ceux qui ont été arrêtés. Il n'y a que le ministère public. Et pourtant, le ministère public, il y a eu des cas de détournement des fonds avérés par l'ancien ministre qui était des Finances, où on pouvait attendre l'action du procureur général de la République pour se saisir de ces cas. Il y a eu des cas que particulièrement Muyambo avait dénoncé contre le gouverneur du Katanga. Jamais, alors jamais, on a vu le procureur général de la République se saisir de ce cas-là pour les traduire devant un tribunal. Mais malheureusement, ce sont des cas isolés parce que tel a dit non à la révision constitutionnelle, qu'il faut maintenant lui trouver des griefs, qu'il faut fabriquer, qu'il faut monter un laboratoire.
Merci,
pour monter les cas, les reproches, pour monter les infractions, pour monter... C'est à ce niveau-là que nous disons que notre gouvernement devrait reconnaître, quand on lui dit que ça ne va pas, en âme et conscience, reconnaître et améliorer.
Merci Joël Kadet, Laurel Kankole, journaliste au journal Forum des As, un quotidien qui paraît à Kinshasa. Vous venez sur Joël Kadet qui s'étonne du fait que le gouvernement soit toujours, n'est-ce pas, sur la défensive. Que chaque fois, quand il y a ce genre de rapport de la part des différentes ONG, que le gouvernement n'accepte pas que les choses ne marchent pas.
Oui, mais Joël a peut-être raison sur certains points, mais pas sur l'ensemble, parce que Il y a des éléments sur lesquels nous devons nous mettre d'accord. Je me dis, lorsqu'un gouvernement, il y a un rapport d'une ONG internationale ou locale qui met sur la table du gouvernement certaines situations, certaines réalités par rapport à la gestion, c'est de la matière sectorielle et de manière segmentée que cette ONG met à la disposition du gouvernement. Il appartient au gouvernement d'analyser les documents, d'analyser les rapports, prendre ce qui est bon, prendre ce qui est mauvais et corriger dans la mesure du possible, faire ce qu'il faut faire. Je crois, la RDC, depuis toutes les guerres qui se sont succédées, depuis tous les conflits armés qui sont arrivés au pays après la chute de Mobutu, le pays s'est transformé exactement en une sorte de chantier pour toutes les ONG internationales et locales. Chacune d'elles prend le bout qui l'intéresse et puis essaye un peu d'hyperboliser, d'exagérer, tout et tout. C'est vrai que nous ne sommes pas la pire des nations où c'est qu'on met des pires atrocités sur le plan des droits humains. Je crois que nous aussi, nous devons regarder la situation froidement, analyser et dire non, certainement, là, il y a un peu de bavure. Ici, on aurait pu faire ceci ou éviter cela. Sur le plan des arrestations, par exemple, ici, la question, je prends un cas comme ça, la question n'est pas d'aimer un chef de l'État. Non. On peut ne pas aimer un chef de l'État, mais c'est un devoir constitutionnel de respecter un chef de l'État. Un chef de l'État, on le respecte. L'aimer, c'est tout autre chose parce que ça relève d'un sentiment affectif. Là, chacun est libre. Si quelqu'un dit aujourd'hui, tu permets Guy, quelqu'un dit aujourd'hui, je prends un exemple parce que quelqu'un, il y a l'opposant qui a dit, nous allons chasser cet imposteur par la cohésion nationale, par l'idéal de l'unisson. L'imposteur, sous-entendu...
Vous faites allusion à qui, là?
Et Tshisekedi l'a dit à Belgique, il a dit, nous allons chasser cet imposteur, je crois son discours est passé dans les médias. Je crois là, sans sérieux, mettons-nous, interrogeons la citoyenneté. Dans les différents meetings, par quel qualificatif on utilise pour désigner le chef de l'État? Nous sommes tous ici, nous pratiquons les médias. Je crois quelque part, il y a ce manque de considération. Opposition, un musicien l'a dit, l'opposition ne veut pas dire insolence, la majorité ne peut pas dire non plus l'arrogance. Je crois qu'il faudrait qu'on concilie les deux. On devrait concilier les valeurs. Et sur le plan de la liberté de presse, par exemple, je crois que nous sommes parmi les pays où nous devons nous flotter les mains. Dire, ça va quand même. Dans d'autres nations, je crois, on n'aurait même pas 10 journaux ici, on n'aurait même pas 10 radios. Il suffit de faire la radioscopie de nos médias. Nous sommes des centaines de titres le matin et des centaines de radios. Je crois que là, Amnesty International pousse un peu les curseurs un peu plus loin.
Merci Raphaël Kiongi Matondo, éditeur directeur général du journal Jonction, un journal qui paraît à Goma. Un des faits qui sont reprochés par le gouvernement à Amnesty International, c'est le fait que cette ONG internationale publie, n'est-ce pas, son rapport sans pour autant avoir au préalable obtenu, n'est-ce pas, l'avis du gouvernement congolais.
Oui, il aurait été plus intéressant que cette ONG, avant de publier son rapport, pour rendre ça plus crédible, de pouvoir interroger le ministère de la Justice et d'autres, disons le gouvernement dans l'ensemble, pour comparer certains faits. Et qui, quand moi je lis même ces rapports-là, je trouve qu'il y a des faits à citer. Il y a d'autres qui sont inventés, hein, parce que on voit comment ces ONG quand même travaillent ici. Mais dans l'ensemble, le fait tel qu'il est relevé dans ces rapports, dans la plupart des cas, sont fondés. Tenez, par exemple, ici chez nous, actuellement, les arrestations arbitraires sont devenues monnaie courante, même pour des cas anodins. Donc, bon, la prison est pleine. Aujourd'hui, notre prison, qui a une capacité de 400 détenus, est avoisine déjà les 1500 détenus. Et à 80%, ce sont des détentions préventives. Et souvent, sans dossier préalable au parquet. Vous voyez, donc ce sont des cas qui gênent. Moi, je pense que le gouvernement devait fournir un effort, accepter les critiques, chercher les voies et moyens d'améliorer. Surtout que les nouveaux magistrats qui ont été déployés ici à l'Est dans la plupart des parquets sont en train de faire preuve d'un comportement, disons, d'une légèreté, pas tous, mais une bonne partie, d'une légèreté qui énerve et qui révolte certaines consciences. Et avec ça, ça ne peut pas marcher. La police, n'en parlons pas. Dans toutes les localités, on nous envoie régulièrement des SMS pour dénoncer les flagrances des OPJ de la police. Même l'armée, La mer, c'est pire. La mer commence à arrêter même les civils pour des cas, des histoires de dettes. Vous voyez là où nous allons. Il faut, je pense, reconnaître qu'il y a des situations qui méritent d'être dénoncées, et non seulement être dénoncées, mais essayer de combattre par tous les moyens, parce que le président, de toute façon, l'a promis, hein, lors de son discours de clôture de concertation nationale. Il a dit qu'il n'y aurait plus place en RDC à l'impunité. Mais maintenant, où est-ce que nous sommes?
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Paul Lobadianyama qui était à la technique, à Alain Irung, à la réalisation, sous la supervision de Ben Kabama, à la présentation Guy Maté. Merci et bon week-end sur Radio Capi.